C'est pas faux.
That's like not being on Facebook.
I'm not on Facebook.
You're so fucking classy.
Where is Jessica Hyde?
So there's two ways this could go, Precious. Kick or kiss. They both end the same. With my dick up your ass.
Like, there's this guy who invented this car that runs on water, man. It's got a fiberglass air-cooled engine and it runs on water.
Shut up. Shut up, guys. Shut up. Please shut up. Stop. Shut up. 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 Shut up.
Allez, je te laisse chez les crocs.
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, votre émission qui vous parle série télévisée sur votre radio préférée. On est reparti avec ce 35e épisode déjà de la saison 2, on a bien bossé, avec Aurore, notre spécialiste en série télé, qui va nous partager son savoir une nouvelle fois ce soir. Bonsoir Aurore.
Bonsoir Ben.
Tu vas bien ?
Je vais bien.
Tu es en pleine forme ou on est de retour avec une musique qui est technologique et histoire de revoir les pilotes de la semaine?
Oui, tout à fait. Et je vais commencer avec un pilote que j'aurais pu traiter quand on parlait des trailers, vu que c'est un pilote qui a fuité pour l'année prochaine en fait.
Oui, un pilote complet, donc un peu plus long qu'un bête trailer de quelques minutes.
Voilà, oui, c'était une comédie, donc 20 minutes. Pour le pilote de Crowded, qui je crois sera diffusé sur CBS, si je ne m'abuse. Alors c'est quoi le concept de cette série? C'est nous proposer une famille avec le couple principal qui voit ses enfants, ici en l'occurrence deux filles, petit à petit partir à l'université et donc quitter le nid. Et ouais. Se retrouver seul et avoir une petite dépression de se retrouver seul, mais finalement vite s'y habituer et reprendre du plaisir à finalement profiter de la vie à deux. Sauf que ce
plaisir va être de courte durée.
Voilà, exactement, puisque une fois les études passées, les deux jeunes filles se disent que finalement retourner chez papa et maman, c'est encore le meilleur moyen de ne pas passer dépenser son argent dans des loyers, etc. Surtout quand on a du mal à trouver du travail, et donc ils se retrouvent à devoir à nouveau avoir leurs deux filles à la maison et de surcroît, les parents qui constamment viennent les envahir.
Oui, les grands-parents, donc des deux filles. Mais justement, moi j'avais vu la période beaucoup plus courte, la durée de leur solitude à la maison.
C'est l'explication du concept, mais c'est vrai que c'est expliqué très, très rapidement.
Donc c'est quand même, elles ont quand même terminé leurs études dans l'histoire.
Ah oui, je crois qu'elles ont toutes les deux terminé.
Je crois qu'elles étaient vraiment revenues assez rapidement, mais bon, oui, ok.
Non, c'est vrai que comme on l'explique assez rapidement, mais on a l'impression que c'est passé trop vite. Mais je crois qu'ils disent que c'est 5 ans plus tard ou quelque chose comme ça.
Ok, bah, j'ai sapé cette période-là dans l'épisode.
Oui. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? En gros, c'est plutôt sympathique.
C'est plutôt frais, oui.
Ça ne révolutionne rien dans la mesure où des séries qui essaient de s'imposer sur cette question-là du retour des enfants chez leurs parents à cause des conditions économiques qui ne permettent plus vraiment à chacun de vivre séparément. On a déjà vu ça depuis quelques années, c'est un sujet qui revient assez régulièrement dans les comédies qui sont proposées.
C'est pas une première, ouais.
Et qui jusqu'à présent n'ont pas, j'ai l'impression, fourni des séries mémorables.
Voilà, inoubliables, non. Bah,
non.
Si. Voilà.
Et donc, ben celle-ci, j'ai pas l'impression que ce sera beaucoup plus mémorable.
Non, Mais bon, voilà, on l'a vu, le constat des comédies en tant que telles aux États-Unis n'est pas glorieux.
Oui.
Donc malgré tout, peut-être un petit espoir, un petit ballon d'oxygène dans ce domaine-là.
Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il faut vraiment, j'ai l'impression, être indulgent vis-à-vis des comédies pour le moment, parce que malgré tout, le meilleur qu'ils ont à nous proposer ne vole pas bien haut. Donc on est toujours bien content quand c'est pas juste insupportable, déjà.
Ok. Ben voilà, donc à voir, à suivre cette petite aventure.
Oui.
Alors, suite des pilotes que tu aurais vus cette semaine.
Alors cette fois-ci, on va parler de pilotes qui commencent bel et bien maintenant. Et on va commencer par la série proposée par Netflix, Between.
Mm-hmm.
Netflix qui, pour cette série-ci, a décidé de diffuser un épisode par semaine.
Oui, donc il va falloir être patient.
Voilà.
Retrouver un rythme normal.
Il faut attendre.
Ça vaut la peine d'attendre. Hein.
Est-ce que ça vaut la peine d'attendre ?
On ne sait pas.
Alors, on va d'abord expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit d'une petite ville dans laquelle on se rend compte qu'un virus commence à tuer de manière totalement inexpliquée les gens. Et au bout de quelques jours, eh bien, quasiment toutes les personnes au-dessus de 22 ans sont mortes. Manifestement, le virus donc ne toucherait personne en dessous de cet âge-là.
Mmh.
C'est une bonne nouvelle pour eux, sauf que on va se retrouver avec autant des adolescents que des enfants et des jeunes adultes totalement livrés à eux-mêmes et obligés de devoir se débrouiller, vu que la ville a été mise en quarantaine de manière assez brutale par le gouvernement, voire même l'armée.
Ouais, assez souvent, dans ce cas de figure, dans les séries télé, c'est toujours assez radical.
C'est très radical, en effet.
Mm-hmm.
Et donc, à partir de là, ils vont devoir se débrouiller. Alors, le pilote a de bons côtés et de moins bons côtés. Je dirais que le point fort de la série, du pilote en tout cas, c'est de nous présenter d'emblée un certain nombre de personnages principaux qui sont vraiment sympathiques, intéressants, qu'on a envie de
voir évoluer,
de suivre, oui, mm-hmm. parce que ils ont pas l'air d'être totalement idiots, parce qu'ils ont pas l'air d'être décérébrés, la plupart donnent plutôt envie de devenir leurs potes, quoi. Donc pourquoi pas.
Pour ça, c'est pas mal. Maintenant, peut-être que le bas blesse est peut-être plus sur l'histoire, vers quoi elle va nous mener, en gros ?
Alors, en gros, le concept de base est plutôt chouette aussi. Le seul endroit où c'est vraiment problématique, c'est qu'il y a énormément de raccourcis dans la manière dont l'intrigue se déroule. Et donc, assez souvent, tu te dis, ouais, mais quand même, c'est un peu simpliste la manière dont ils font avancer ça, quoi.
Oui, c'est peut-être pas justement un petit défaut d'un pilote.
Peut-être qu'avec le temps, ils vont s'améliorer, justement plus se poser et prendre le temps de véritablement laisser l'intrigue se dérouler par elle-même. C'est mm-hmm. possible, c'est vrai. En tout cas, ça ne m'a pas totalement rebuté non plus.
Je sens que tu vas quand même être intrigué par la suite,
oui.
Et laisser une petite chance à cette série.
Oui, exactement. Ça donne malgré tout envie de continuer, parce que même s'il y a quelques raccourcis scénaristiques, les personnages donnent vraiment envie de les suivre.
Bien, bien. Alors, tu as encore combien de pilotes à nous proposer ce soir ?
Un dernier.
Un petit dernier, alors.
Un petit dernier, il s'agit de Mr. Robot.
Ah !
Alors,
j'ai bien aimé, je te le dis déjà.
je suis contente pour toi, moi aussi, j'ai bien aimé.
Oui, on sait pourquoi.
Ah bon ?
Il y a du Christian Slater dans la série, donc par définition, tu vas regarder, même si c'est tout pourri.
Mais écoute, je suis probablement la seule sériephile qui aime Christian Slater, vu qu'à chaque fois qu'il y a une série avec Christian Slater dedans, elle se plante lamentablement. Mais
ça n'a pas été que bon ces derniers temps, il faut bien l'avouer. Ouais.
Oh, voilà. ne sois pas
voilà,
cruel.
C'est là que tu n'es pas objectif. Bon, bref. Alors, cette Mister Robot.
De quoi ça nous parle ? Ça nous parle d'un jeune homme qui est apparemment extrêmement doué pour tout ce qui est informatique et notamment le piratage informatique, mais qui, d'un point de vue social, on va dire, a pas mal de difficultés à
communiquer,
ouais. S'intégrer, enfin vivre une vie un petit peu épanouie de ce côté-là.
Socialement, oui.
Voilà, et il travaille alors que la nuit, il passe son temps à pirater et à suivre des gens pour essayer de trouver leur plus noir secret.
Ouais, il fait un petit peu le justicier, quoi.
Un petit peu, c'est vrai. Le jour, il travaille pour une grosse boîte qui, justement, assure la sécurité des grosses entreprises, voilà, pour empêcher qu'elles se fassent hacker, justement. Voilà, à partir de ce principe-là, qui fait quand même pas mal penser... notamment puisqu'on parle de justicier à Dexter, moi en tout cas j'ai pensé à ça dans sa manière de se présenter comme un justicier la nuit et travaillant pour ce qu'il combat ou l'inverse de ce qu'il fait la nuit le jour. Donc il y a cette idée là et puis dans l'image, dans le traitement, dans le côté un petit peu aussi anarchiste du propos, on retrouve beaucoup l'ambiance de Fight Club aussi.
Ouais, ok, je peux comprendre ce que tu m'expliques.
Voilà, ce sont les deux œuvres auxquelles j'ai pu penser pendant que je regardais ce pilote, en tout cas. Pendant le pilote, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il va être confronté à une grosse tentative de piratage qui va plus ou moins l'interpeller et essayer de le rendre complice. Ce qui va le mener à rencontrer les personnes qui se trouvent derrière tout ça. On se doute que c'est le début d'une collaboration. Alors, est-ce qu'elle finira bien ou pas ? On ne le sait pas encore.
On n'en sait encore rien. Donc voilà, un petit milieu underground, justifié. Ils ont une sorte de mission de nettoyage de quelque chose ou de dénonciation.
Oui.
C'est pas trop bien. Et voilà, les bases sont jetées. Moi, je trouve ça bien filmé, bien amené. Et techniquement parlant, puisque tu sais que l'informatique n'a aucun secret pour moi, ouais, ça tient plus ou moins la route. J'ai déjà vu pire.
Oui, ça je m'en doute.
Voilà, c'est de temps en temps vulgarisé évidemment, mais allez, pour une fois on parle pas de bande passante, donc c'est déjà pas mal.
Ok, mais écoute, si on est tous les deux ravis, il n'y a aucune raison de ne pas essayer quoi.
Oui, de poursuivre. Elle est disponible où cette série ?
Alors, c'est sur USA Network.
Et là aussi, donc c'est tout nouveau, donc il va falloir prendre son mal en patience pour voir l'épisode suivant arriver. Enfin, il arrive bientôt,
sûr, ouais.
Mais voilà, c'est pas du Netflix genre je consomme tout en une fois.
Non, pas du tout.
Parfait, merci pour cette revue des pilotes. Aurore, on va faire une petite pause musicale là tout de suite. Je te laisse la présenter.
Alors, il s'agit de The Mixed Tape, chanté par Jack Mannequin, je sais pas du tout comment on le prononce, dans One Tree Hill.
This is morning, it's when I spend the most time thinking about what I've given up. This is warning, when you start the day just to close the curtain. You're thinking about what I've given up. Where are you now? As I'm swimming through the stereo, I'm writing you a symphony of sound. Where are you now? As we rearrange the songs again, this makes one you left when you broke into my house. I'm retracing every step you made. And you said you meant it. And there's a piece of me in every single second of every single day. But if it's true, then tell me how we got this way. I can't get to you. I can't get to you.
Eh bien voilà, il est grand temps d'aborder le sujet du jour. Vous le savez, on se casse toujours un peu la tête dans cette émission. On vous parle pas série télé genre j'aime bien Dawson, il est trop joli. Non, on vous parle de choses pseudo-intelligentes. Et on va parler d'un sujet que j'ai un peu abordé sans le vouloir, juste en terminant la précédente intervention, puisque je vous parlais de la plus ou moins vraisemblance des faits informatiques relatés dans la série. Et c'est un peu ce qu'on va discuter aujourd'hui. Est-ce qu'une série doit être plus ou moins réelle? Est-ce qu'elle doit ressembler à la réalité? Ce genre de choses. Plus ou moins.
Oui, alors je vais expliquer un petit peu. Donc on va parler de la notion de vraisemblance, comme tu l'as bien dit, et on va essayer de comprendre ce qu'on entend par là et ce que ça veut dire exactement, ce que ça recoupe. En gros, pour vraiment tout reprendre depuis le début, il faudrait probablement se rappeler de ce qu'on avait pu discuter précédemment dans une autre, voire plusieurs autres émissions, où on s'était posé la question du rapport entre ce que nous représentent les séries et puis le réel. Est-ce que les séries nous proposent la réalité?
Un reflet de la réalité.
Voilà,
ouais,
exactement. Ça. Et en fait, on était plus ou moins, j'ai l'impression, arrivé à la conclusion que ce n'était pas véritablement sur ce plan-là qu'il fallait se poser la question, vu que si vraiment on veut voir ça comme un reflet, ben non, ça ne reflète pas la réalité, le réel en tant que tel. C'est quand même un petit peu plus compliqué que ça, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. En gros, il faut se remettre un petit peu dans l'état d'esprit quand on se présente face à des fictions, quelles qu'elles soient, que ce soit des séries, des films, un livre ou quoi que ce soit comme fiction. À chaque fois, il y a dans notre tête un mécanisme qu'on appelle la suspension de l'incrédulité. Donc, en gros, pendant le temps où on est confronté à cette fiction, vu que justement on sait qu'on n'est pas face à quelque chose de réel, eh bien, on va mettre notre incrédulité en suspens. Donc si j'étais dans la réalité, forcément, tous les événements qui me sont présentés, je me dirais, mais enfin, c'est pas possible, ça, c'est pas vrai. Mais là, je suspends ce jugement-là.
Donc, on se donne l'envie d'y croire, en gros.
Voilà, oui, exactement. On se met dans l'état d'esprit d'être capable de croire beaucoup plus de choses que dans notre vie de tous les jours.
C'est ça. Et notre imagination nous pousse à un peu nous imprégner du monde qui nous est offert, quelque part.
Oui, tout à fait. Et donc, il y a cette suspension de l'incrédulité qui est assez connue et facilement compréhensible. Hein. De fait, on ne prend pas la fiction comme si c'était le réel. Mais en même temps, il faut bien se rendre compte que il nous arrive quand même, face à certaines fictions, de nous dire « ça sonne faux, ça me paraît totalement pas crédible ce qu'il raconte », ou bien au contraire, trouver qu'une série est particulièrement efficace pour représenter la réalité. Donc, malgré tout, il doit exister, je sais que t'aimes bien ce mot-là, donc il doit exister quand même un critère qui permet de faire la différence entre ce qui serait réel, en tout cas, ce auquel on serait capable de croire lors de cette suspension d'incrédulité.
Tout à
toujours,
fait.
Hein.
Je vois la barrière.
Même en ayant suspendu notre incrédulité, on serait toujours pas capable de croire.
Il y a des séries qui ne s'y prêtent pas, quoi qu'il arrive. De la science-fiction pure, genre, je sais pas, Wonder Woman qui vole au secours des plus démunis, j'ai beau m'adapter au monde qu'on me propose, je n'y crois quand même pas. Enfin, tu vois.
Mais si, évidemment que si. Peut-être.
Je lui donne une certaine crédibilité pour pouvoir continuer à regarder, mais.
C'est justement ça. Tu es face à des choses qui. Tu sais que ça n'est physiquement pas possible,
hein. Mais tu admets.
Et donc, si quelqu'un te racontait « Ah oui, hier, j'ai vu Wonder Woman qui volait à côté de ma fenêtre », tu n'y croirais pas. Mais pendant le temps où tu es en train de regarder cet épisode, tu l'acceptes comme étant un fait pour pouvoir continuer à suivre l'intrigue.
Oui, mais pour autant, je suis tout à fait conscient que ce n'est pas possible dans la vraie vie. Voilà.
Mais ça ne change rien.
Si, moi ça change beaucoup parce que justement par rapport à la nuance, ok, j'ai bien compris le concept, pour que le récit existe dans ce cas de figure, il faut assimiler l'idée que oui, c'est possible que Wonder Woman vole. Mais derrière ça, justement, c'est flagrant. Mais alors, il y en a d'autres, on est plus borderline, c'est plus proche d'une certaine réalité, même si on sait que machin. Et là, oui, le critère en question, je ne t'ai pas vu venir avec ça, je ne sais pas c'est quoi. Tu sais le définir, toi? Tu sais c'est quoi la valeur qui va te définir une série qui est plus réaliste qu'une autre qui ne le serait pas ou...
Mais en fait, ici la question ne se pose pas comme ça, dans la mesure où c'est ce critère du vraisemblable, tu l'auras quelle que soit la série. Que ce soit la série qui te présente les faits les plus invraisemblables, justement, comme la science-fiction, comme le fantastique, etc., que dans des séries qui, au contraire, te proposent des faits très, très réalistes.
Je suis d'accord. Mais alors, il y en a certaines sur lesquelles on peut abandonner. On peut ne pas y croire.
Alors justement,
et là on abandonne complètement, pour nous c'est pourri quoi.
Justement, c'est ça l'idée, c'est qu'il existerait malgré tout quelque chose qu'on pourrait appeler le vraisemblable et qui malgré tout nous permet de faire la différence entre ce qui, au sein de cet univers fictionnel, quand une fois qu'on a admis « ok, on est dans cet univers-là », mais non, ça ne va pas du tout et non, je ne l'accepte pas, ou bien... oui, je continue à adhérer. Et ce vraisemblable, comment est-ce qu'on va pouvoir comprendre sa manière de fonctionner? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent nous aider à le définir. Une première chose qui va pouvoir nous aider à savoir ce qui nous paraît vraisemblable ou pas, c'est nos horizons d'attente, la manière dont on s'attend à ce que le monde fonctionne. Mmh. Même dans un monde fictionnel, il y a un certain nombre de choses qui nous paraissent devoir fonctionner comme ça. Par exemple, même si tu savais qu'en regardant Mr. Robot, tu étais face à une fiction, malgré tout, d'emblée, tu as appliqué ton savoir informatique pour juger de la crédibilité de ce qu'il racontait.
Oui, ben, et voilà.
Ça, c'est
pas
un exemple.
100% correct. Toi, ce sont des choses qui ne te touchent pas.
Mais ce critère-là, c'est vrai. Et, enfin, cette question-là en particulier est moins vraie chez moi, vu que j'ai beaucoup moins de connaissances informatiques que toi. Et du coup, mais moi, oui, probablement que les critères sur lesquels ce que je trouve vraisemblable va jouer vont être différents. Donc, par exemple, on sait, je crois que je l'ai suffisamment dit, que j'avais énormément de mal avec toutes les séries historiques, mais probablement que le fait que j'ai un certain background de connaissance de l'histoire ne me permet pas, autant que d'autres, d'adhérer...
D'accepter certaines visions de l'histoire, oui.
Oui, voilà.
Ok, et donc sur ce premier point, c'est vraiment une part de sensibilité. Donc il y a certaines séries qui vont fonctionner sur certaines personnes, et d'autres pas. Enfin, le même public ne peut pas nécessairement adhérer à la même vraisemblance de la série.
Ça, mais oui, justement, ça c'est un des critères. Donc ce sont nos connaissances à nous personnelles, et donc, mais en
ça
effet,
varier,
d'une
quoi.
Personne à l'autre,
ouais,
ça peut varier. Il y a, par exemple, un autre exemple que je tiens, c'est le pilote de 100, c'était mm-hmm. Ça qu'on avait vu l'année passée, et que je crois tous les deux on n'avait pas du tout aimé, on avait rejeté en bloc comme étant totalement farfelu. Ne correspondant pas du
oui,
tout
à... Oui, tout à fait,
à,
oui. C'est cette bande de jeunes qui débarquent sur une planète, là. Oui, ok.
Oui, voilà. Et cette série, malgré tout, a rencontré un certain succès, continue à rencontrer beaucoup de succès dans la saison 2. Donc, manifestement, d'autres personnes ont trouvé que, selon leurs critères du vraisemblable, eh bien, ça correspondait tout à fait à ce qu'ils attendaient, tu vois.
Tant mieux
donc,
pour eux.
ça, c'est la question juste personnelle. En fonction de nos personnalités et de nos connaissances, eh bien, on va avoir des critères qui vont être variables. Il existe aussi toute une série d'horizons d'attente collectifs, notamment sur la manière dont doit fonctionner la famille, les rapports hommes-femmes ou ce genre de choses-là, qui sont très ancrées dans notre culture, dans notre manière de vivre, et qui peuvent aussi énormément influer sur notre manière dont on va accepter ou pas ce qui nous est présenté.
Oui, donc là, oui, ne fût-ce que géographiquement, certaines séries ne fonctionneront pas
probablement
dans certaines zones de la planète.
Dans certaines zones de la planète, eh bien, il y a certaines séries qui paraîtront totalement impossibles à concevoir. De même qu'on peut imaginer que des séries qui datent déjà d'il y a plusieurs dizaines d'années vont nous paraître quand même très peu crédible parce que
les valeurs,
par exemple,
sociales ont évolué.
Oui, ou bien parce que simplement les effets spéciaux et le mode de représentation a tellement changé qu'on n'est plus capable d'adhérer à ces décors en carton-pâte, etc. Ça peut aussi jouer. Et enfin, la troisième chose qui va aussi jouer énormément pour le vraisemblable, c'est la cohérence à l'intérieur même du récit, de la série. Il faut que, au sein de la série, on ait un grand respect de l'univers qui a été posé au départ. Et quand, au bout d'un certain moment,
ça
que ce soit
vrille,
plus ou
ouais,
moins longtemps, la série renie ses principes d'origine, eh bien, on est éjecté quelque part en dehors de l'univers et on se dit non, là, c'est pas possible. T'es en train de te renier toi-même en proposant ça, quoi.
Radicalement à Dexter. Moi, quand je t'entends parler de ça, enfin, c'est lui que tu vises personnellement et on en a pas parlé avant. Mais je reconnais très bien ton propos envers Dexter, qui, oui, a renié son engagement initial quelque part.
Oui, voilà. Très clairement.
À partir de là, toi, tu as complètement décroché. Bon, moi, j'ai décroché aussi, peut-être pour des raisons un peu différentes, à la fin, certainement.
Probablement aussi, oui.
Mais voilà, ça, c'est un exemple type.
Mais c'est vrai qu'on en parle souvent, mais c'est très bête. Mais pour moi, on a une personne dont on nous dit pendant plusieurs saisons qu'il est absolument incapable de sentiments, qu'il est incapable de véritablement ressentir des connexions avec des gens.
Et voilà qui tombe amoureux.
Et qui tombe amoureux et qui est prêt à toutes les idioties par amour pour cette personne-là.
Le salaud. Il a le droit, franchement, maintenant. Il a été faible. Elle était belle, la fille. Tu comprends?
Ok, mais il est censé ne ressentir aucune autre pulsion que la pulsion de tuer.
Pauvre Dexter. Condamné
Bref,
à tuer.
On en a déjà suffisamment parlé. Dexter, le pauvre, à chaque émission, on en rajoute une couche.
Bien. Bon, ben voilà. Je pense qu'on a fait le tour de cette première mise en bouche. On va de nouveau faire une petite pause parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Voici la musique.
Alors, il s'agit de Shut Your Eyes de Snow Patrol, entendu dans Brothers and Sisters.
Thank you.
La suite du débat du jour dans Série Folie avec Aurore. Alors, dis-moi vers quoi on se dirige.
Alors, on a jusqu'à présent donc essayé de comprendre c'était quoi exactement ce qui nous permettait de dire qu'une série nous paraissait vraisemblable ou pas. Et donc jusqu'à présent, on est fort resté sur l'idée que c'est à l'intérieur même de cet univers fictionnel que ça fonctionne finalement. Mmh. Or, ce qui est intéressant particulièrement, c'est de se rendre compte à quel point cet univers fictionnel et la manière dont il va pouvoir nous paraître plus ou moins vraisemblable a un certain pouvoir, des effets sur la réalité cette fois-ci. Donc on sort de l'univers fictionnel pour voir que même si quand on regarde des séries, on a conscience plus ou moins d'ailleurs qu'elles ne reflètent pas forcément la réalité, ou au minimum il y a énormément d'éléments qui sont qui ne sont pas montrés, etc. Enfin, malgré tout, ça reste dans le cadre de la mise en intrigue, et donc ça n'est pas le réel. Ouais. Mais malgré tout, ces horizons d'attente qui auront été créés vont avoir un pouvoir sur le réel. Et donc on a un effet comme ça d'alimentation mutuelle, où notre culture, nos savoirs, nos connaissances, etc. vont avoir une influence sur ce qu'on va trouver crédible ou pas dans une série. Mais en même temps, ce qu'on voit dans les séries vont à leur tour avoir une influence sur la manière dont on va considérer le réel.
Bon, je veux un exemple, parce que bon, là je comprends ton principe, mais...
Alors là, tu me poses une colle pour trouver un exemple comme
non,
ça.
Non, t'as bien une idée, t'y as réfléchi. Non, elle n'a pas réfléchi, ok, pour elle, c'est parole d'évangile.
T'aurais dû me demander 5 minutes avant que j'ai le temps d'y réfléchir, parce que là, tu me stresses.
Bon, c'était pas le but. Mais je veux dire, tu nous expliques ça de manière assez naturelle, je veux bien te croire, mais je voudrais quand même comprendre le principe.
Oui, d'accord.
Qu'est-ce que ça va modifier sur le réel, une série ou un environnement fictionnel ?
Alors, au minimum, le fait d'avoir été capable de l'imaginer, alors à travers les séries, c'est même plus que l'imaginer, vu que ça nous est montré en images, mais on est toujours dans le même univers, dans cet univers de l'imaginaire. Le fait d'avoir été capable de l'imaginer rend la chose possible dans le réel. On n'y réfléchit pas forcément, évidemment, au quotidien, parce que justement, ça nous est caché.
Oui.
Mais tant qu'on n'est pas capable de l'imaginer, ces choses sont totalement invisibles, même à nos yeux qui regardent la réalité concrète, en gros.
Donc c'est quoi ? C'est une ouverture d'esprit, en gros ?
C'est pas forcément une ouverture d'esprit, mais au minimum, c'est
insinuer des idées ou imaginer des choses qu'on n'aurait jamais pu faire seul, parce que voilà, ça part d'éléments qu'on n'avait pas en tête, ou ce genre de choses.
Ben en tout cas, ça rend les choses possibles. Possibles dans nos têtes et donc, au final, possibles dans la réalité. Alors, l'exemple bateau, et que moi, j'aime pas trop, parce que justement, on le ressort trop, qui est souvent donné à ce sujet-là, c'est de dire le fait qu'il y ait eu, dans 24 heures chrono, la représentation d'un président des États-Unis noir, a mené à ce qu'il y ait une possibilité d'imaginer dans le réel un président des États-Unis noir. C'est probablement beaucoup plus complexe que ça.
C'est pas que ça.
Voilà, mais malgré tout, c'est un petit peu ce mécanisme-là que j'essaie de mettre...
De décrire.
C'est l'idée vraiment selon laquelle c'est vrai que ce sont nos manières de voir le monde qui influence notre manière de considérer que les fictions sont vraisemblable ou pas, mais c'est vrai aussi qu'une fois que la fiction nous a paru vraisemblable, eh bien, elle est beaucoup plus facilement transposable dans la réalité. Si on a été capable de l'imaginer, eh bien, on est capable aussi de l'accepter.
Oui, bah là, c'est de la haute voltige intellectuelle, parce que c'est presque de la psychologie, c'est quoi ? C'est de quel niveau, cette discussion ?
Si tu veux tout savoir, j'élabore une théorie dans mon coin toute seule que j'appelle l'épistémologie de la fiction.
Ça y est, là on en a perdu combien ? Restez s'il vous plaît.
En gros, c'est essayer de montrer à quel point la fiction en général, donc tout ce qui est imaginaire, etc., nous permet de développer des connaissances.
Bien. Mais non, mais c'est génial. Je vous l'avais dit, c'est une tête. Ce soir, on ne s'ennuie pas. Ça vole vraiment très haut et c'est tant mieux.
J'espère.
Oui.
On a perdu tout le monde, mais au moins, on ne s'ennuie pas.
Ah non, mais moi, je me sens grandi. Quoi qu'il arrive, après chaque émission, franchement, j'ai quelques neurones en plus, donc c'est tant mieux. Est-ce qu'on clôture déjà ce point-là ?
Oui, pourquoi pas. Comme ça, on aura plus de temps pour parler de la suite. On va s'écouter Heaven is a Half Pipe de OMP.
OMP, oui.
Entendu dans Malcolm in the Middle.
If I die before I wake, at least in heaven I can skate. 'Cause right now on earth I can't do jack without the man upon my back. Now heaven would be a DJ spinning dub all night long, and heaven would be just kicking back with Jesus packing my bong. If you don't believe in Jesus, then Muhammad or Buddha too. And while the world is warring, we just sit back and laugh at you, singing. If I die before I wake, at least in heaven I can skate. 'Cause right now on earth I can't do jack without the man upon my back. Think of heaven, they see those pearly gates, but I looked a little closer, and it's a sign that says do not skate. So if you wanna come to my heaven, well, we all gonna have a ball, and everyone you know is welcome, 'cause we got no gates or walls. Soy way back in 87. We'll be busting cross stairs until we get to heaven. You think I really care that I miss biology? Got my education in stale physiology. With all your rules, you got to chill. I'm gonna twist out like Mike McGill. Gonna twist out 'cause I got the skills. Gonna twist out 'cause I got the skills.
Got the skills, got the skills, got the skills, got the skills.
Heaven is a half pipe.
If I die before I wake, at least in heaven I can skate. 'Cause right now on earth I can't do jack without the man upon my back.
If I die before I wake, at least in heaven I can skate. 'Cause right now on earth I can't do shit without the man fucking with it. If I die
Eh bien voilà, venu le temps d'aborder déjà le dernier point de la soirée à propos de cette fiction qui influence un peu notre réel.
Oui.
C'est un peu ça, hein?
Oui, c'est vrai.
C'est vulgarisé, je sais bien, je n'ai pas les mêmes mots que toi, mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu aimerais bien nous expliquer?
Alors, on a dit précédemment que la fiction avait quelque part un pouvoir de nous rendre imaginables et donc possibles certaines choses. La fiction aussi, l'autre gros effet que peut avoir la fiction sur le réel, c'est une forme d'invisibilisation. Donc le fait de rendre invisible un certain nombre de choses qui, du coup, dans le réel aussi, vont passer pour probablement moins importants, vont être un petit peu mis à l'écart aussi dans nos têtes, parce que ben justement on le voit et on l'imagine de moins en moins.
C'est ça. Tu penses à quoi ?
Alors, il y a plusieurs choses. La chose la plus concrète, la plus évidente, qui peut avoir plusieurs causes différentes, hein, c'est le fait qu'il y a certaines catégories de la population qui sont sous-représentées, voire pas représentées du tout. On peut penser, et justement, mais c'est à partir de ce bête petit constat qu'est venue toute l'idée de cette émission aujourd'hui. Dans Between, je vous ai dit, le pilote de Netflix, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants. Et bien justement, la présence d'enfants dans les séries est beaucoup moins importante que dans la réalité. Il y a beaucoup moins d'enfants dans les séries que dans le quotidien.
Oui, bah une question pratique.
Voilà, c'est probablement en grosse partie une question pratique. C'est beaucoup moins facile de faire travailler des enfants acteurs que de faire travailler les adultes.
Bah, surtout d'en avoir beaucoup, j'ai l'impression. C'est un métier.
Oui, d'autant plus, oui. Mm-hmm. Et donc, mais forcément, il y a énormément de séries dans lesquelles, sans qu'on en ait véritablement conscience, parce que quelque part, ça ne fait jamais partie des enjeux, et donc, mais on l'oublie, on ne s'en rend pas compte, mais finalement, il y a plein de séries dans lesquelles on ne voit jamais d'enfants sans
que ça
s'en rendre compte. Quoi.
Ouais, ouais.
Voilà.
Okay.
Bon, évidemment, la question de la représentation des femmes, on en a déjà suffisamment parlé,
mais ça
correspond aussi à cette forme d'invisibilisation-là. Autre chose aussi, les animaux. C'est bête, mais dans plein de séries, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais d'animaux. Comme si on vivait dans un monde totalement... dépourvu du moindre animal. notamment une des séries qui m'interpelle beaucoup sur ce sujet-là, c'est The Walking Dead, où tu vois quasiment jamais d'animaux et c'est vraiment bizarre, quoi.
Oui, parce qu'ils sont pas censés être morts de la même maladie, donc.
Mais tu sais pas justement, est-ce que ça les
touche,
est-ce que ça les touche pas ? On n'en parle pas. C'est comme si les animaux n'existaient pas. Dans ce monde-là, on voit un cheval au début, mais à part ça, on voit très peu d'animaux. Et j'ai l'impression que si on faisait un petit peu l'inventaire de toutes les séries qu'on regarde...
Oui, mais Walking Dead, j'ai un souvenir d'un autre cheval plus tard, et en fait, il se fait bouffer, quoi. Donc peut-être que les morts-vivants ont mangé tout ce qui était un peu remuant sur la planète, quoi, tu vois.
Oui.
Oui, ok, bon, tu n'y crois pas, tu veux encore dénigrer ma série, voilà, je te parle plus.
Tu exagères. Non, mais bon, c'était un exemple qui m'avait particulièrement frappé, mais je crois que justement, si on y réfléchissait un petit peu, la plupart de nos séries, on se rendrait compte que par rapport aux animaux qui peuvent nous entourer au quotidien, il y en a probablement moins. Malgré tout, Et à nouveau, la simple question pratique de la difficulté d'avoir une ménagerie sur un plateau.
Et d'avoir un écureuil acteur et trois pigeons qui ont été formés à l'école de je sais pas tout quoi. Oui, c'est pas évident.
Mais du coup, tu vois, on parle des enfants, les animaux, les femmes. On pourrait aussi, de la même manière, parler de la représentation des malades ou des handicapés. À chaque fois, finalement, c'est uniquement lorsque il va s'agir du propos que on va mettre ces catégories-là à l'antenne. Et au final, ça a un effet ça a un effet un petit peu faux, un petit peu construit de nous avoir mis tel personnage à l'antenne. C'est un petit peu comme quand on met une minorité parce qu'il faut mettre une minorité dans le groupe. On a souvent l'impression que oui, enfin, on voit que c'est parce qu'ils étaient obligés qu'ils l'ont fait.
Mais c'est pas faux.
Et là, c'est la même chose. On a parfois la sensation que c'est un peu construit, c'est un petit peu faux d'avoir mis cette catégorie-là à l'antenne, alors qu'en vérité, dans le réel, il en existe beaucoup plus que ce qu'on nous représente, mais simplement, on nous les montre tellement peu
ouais,
qu'ils sont devenus invisibles dans notre imaginaire.
C'est convenu, quoi. C'est une sorte de représentation d'une société ou d'un monde surfait qui est toléré tel qu'on nous le présente quelque part. Ça va quasiment toujours être la même forme.
C'est très très souvent la même forme, sauf si on décide traiter de ce sujet-là.
Sur quelque chose, alors là on va t'en montrer plein. Alors, si on parle des personnes âgées ou dans un home, tu vas en avoir des kilos évidemment.
Exactement, oui.
Malade du cancer, bien là, on peut te sortir un hôpital complet.
Voilà, tout à fait. C'est vraiment ça, c'est l'idée que c'est toutes ces catégories-là de la population qui au final représentent quand même énormément de monde, eh bien, si on n'a pas la décision volontaire de parler d'eux, eh bien, on n'en parle simplement pas. Donc, quelque part, le neutre, l'état de fiction neutre, c'est l'état de fiction dans lequel ces gens-là n'existent pas.
Oui, mais bon, dans une série policière, il va encore me prendre pour un débile, mais on ne voit que des délinquants, tu vois ce que je veux dire. Et les gens honnêtes dans tout ça.
De quoi tu parles ?
Mais c'est un peu ça aussi, quoi, tu comprends. On va quand même se focaliser toujours sur la poursuite d'un criminel, tu comprends bien.
Mais de toute façon, toujours, oui, il y a un propos. Et donc, forcément, dans le propos, dans une série médicale, ce sera forcément de nous montrer plus de malades que une série...
On n'irait plus jamais dans un hôpital. Et si on devait se contenter de regarder des séries policières américaines de tout public, mais assez violentes, on aurait moins foi quand même en l'humanité, tu comprends?
Oui, mais en même temps, tu te rends aussi compte qu'à travers ces exemples-là, quelque part... ce qui nous est montré autant dans les séries policières que dans les séries médicales, par exemple, ce sont les cas les plus spectaculaires, les plus extrêmes. Et donc, à nouveau, tout ce qui est un petit peu moyen, un petit peu passe-partout, sera beaucoup moins représenté.
Mis à l'écart, oui, tout à fait. On ne va pas parler d'une petite grippe chez Dr House, par exemple.
Par exemple, et on ne va pas parler du petit délinquant qui a fracassé une vitrine dans Law & Order, quoi.
Bien. J'ai compris le principe. Ok, le front est tombé.
Dernière chose, oui, pour vraiment clôturer, en dehors donc de toutes ces catégories de la population, il y a aussi une autre chose qui est fort invisibilisée à nouveau, à moins que ce soit vraiment le propos qui veut être tenu par la série, ce sont toutes les considérations politiques, économiques, idéologiques. Et cette fois-ci, évidemment, c'est pour être le plus mainstream possible et choquer le moins de gens possible et convenir à toutes les sensibilités, ben on va essayer de ne pas trop s'engager sur ces questions-là, justement.
Oui, pour pas choquer, mais surtout peut-être pour que la production qui est derrière, elle, peut-être soit toujours visée plus ou moins par ce discours un peu, tu vois, moralisateur, elle n'est pas intéressée par ce message, tu vois ce que je veux dire.
Non.
Bah, souvent, tu vas vouloir attaquer quoi ? Bah, la suprématie des plus riches,
Non, pas forcément. Moi,
un exemple
que j'ai en tête, c'est la série Brothers and... non, qu'est-ce que je raconte ? Brothers... c'est Brothers... Les frères d'armes.
Brothers in Arms.
Voilà, j'imagine que c'était ça.
Ou Bands of Brothers.
Voilà, Bands of Brothers, okay. Oui. Dans cette série-là, on nous représente le quotidien des soldats, etc. Mais je trouve quand même ça étonnant qu'à aucun moment dans cette série-là, aucun soldat n'ait le moindre discours sur pourquoi est-ce qu'on part à la guerre, qu'est-ce qui me pousse à m'engager, quelles sont les raisons qui justifient cette guerre ou pas. Sous prétexte de nous montrer simplement le quotidien des soldats, on voudrait nous faire croire que tous ces gens-là
jamais ne se posent de questions. Okay.
Voilà, je trouve ça un petit peu bizarre. Et je crois qu'il y a énormément de séries, à nouveau, qui font le choix de ne pas prendre position et donc de ne pas aborder toutes ces questions un petit peu sensibles, quoi.
Oui, mais franchement, moi, c'est... Pour moi, le milieu de la finance qui est derrière, les producteurs qui sont un peu frileux, quoi. Ils veulent ramener du pognon. Donc, si tu te mets une idée un peu trop fixe, comme tu le dis, bah, tu vas te foutre la moitié de la population à dos ou pas. Donc,
mais oui, c'est justement ça.
Mais donc, ouais. C'est un peu la finance qui décide de ça.
Si tu le
dis. Oui, moi je te le dis.
T'es un grand anarchiste dans la...
Mais exactement, je n'aime pas l'argent, c'est bien connu. Bon, alors, ben voilà, ça se termine. Merci pour ce partage de savoir, une nouvelle fois.
Mais écoute, j'espère ne pas avoir trop ennuyé les gens.
Bon, ben, on verra. On va aller vérifier les audiences. On va se quitter en musique dans quelques instants, juste après vous avoir rappelé néanmoins que toute l'actu de votre émission préférée se retrouve sur le net via le www.seriefolie.be, Seriefolie en un mot avec SA Série, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, seriefolie.be. Le podcast, eh bien, il débarque très bientôt, histoire de le réécouter plusieurs fois, hein, parce que cette fois-ci, il va falloir pour assimiler toute la matière. On va se quitter avec un groupe que j'apprécie particulièrement, les Coldplay, et je te laisse annoncer le titre.
Alors, c'est Everything's Not Lost. Qu'on a entendu dans Scrubs, excuse-moi.
À la semaine prochaine, merci de nous avoir écoutés une nouvelle fois.
When I counted up my demons, saw there was one for every day. With the good ones on my shoulders, I drove the other ones away. So if you ever feel neglected, if you think that all is lost, well, I'll be counting up my demons, yeah, hoping everything's not lost. Don't you let it
it drag you down. 'Cause if you ever feel neglected, if you think that all is lost, I'll be counting up my demons, yeah, hoping everything's not lost. Singing out.